musique.
À l'écoute de Radio France Internationale, 20h30 ici à Paris, 19h30 à Kinshasa, 18h30 en temps universel. L'heure de la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. En Côte d'Ivoire, l'opposant Tidiane Thiam écarté de la course à la présidentielle. Le chef du principal parti d'opposition radié ce mardi. La justice estime qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne. Une décision qui ferme donc la porte à sa candidature au scrutin du 25 octobre prochain. Nous irons ensuite au Ghana pour le début des célébrations du 50e anniversaire de la CEDEAO. Le jubilé d'or de l'organisation régionale sera marqué par une série d'événements tout au long de l'année dans l'ensemble des pays membres. Et puis en République démocratique du Congo, le PPRD, le parti de Joseph Kabila, dont les autorités ont suspendu les activités, répond aux accusations du pouvoir. Kinshasa dénonce l'activisme de l'ancien président dans la guerre d'agression rwandaise, le silence coupable de son parti. Accusation que le PPRD rejette dans une correspondance adressée au ministère de l'Intérieur. À retenir également notre dossier consacré à l'héritage intellectuel d'une grande figure des études africaines, le philosophe et auteur congolais Valentin Yves Moudimbe, décédé la nuit dernière aux États-Unis où il vivait. Oui, en Côte d'Ivoire, le tribunal de première instance d'Abidjan a donc ordonné la radiation de Tidiane Thiam de la liste électorale. Bonsoir Binta Diagne.
Bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous.
La juge estime qu'il n'était plus ivoirien au moment de son inscription sur la liste en 2022. Alors comment expliquer, Binta, cette décision ?
Eh bien, la juge a estimé que Tidiane Thiam a perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française. Elle s'appuie sur l'article 48 du Code de la nationalité qui stipule qu'un ivoirien majeur perd la nationalité ivoirienne au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une autre nationalité. Les avocats de Tidiane Thiam ont tenté de prouver que leur client est né français et donc de prouver que cette disposition du code de la nationalité ne s'applique pas à Tidiane Thiam puisque le leader du PDCI serait né binational. Ils affirment avoir présenté des documents administratifs allant dans ce sens. Nous respectons la décision de la juge mais nous ne la partageons pas, affirme Maître Rodrigue Dagier, l'avocat de Tidiane Thiam, déçu ce soir par cette décision de justice.
Comment en est-on arrivé là, Binta ?
Alors à l'origine, tout est parti d'un électeur qui, au moment du contentieux sur les listes électorales, a saisi la commission électorale indépendante pour demander la radiation de Tidiane Thiam de la liste, estimant qu'il n'était plus ivoirien. La CEI a débouté cette personne qui s'est donc tournée vers le tribunal de première instance d'Abidjan. Une audience s'est tenue à huis clos ce matin, audience au cours de laquelle chaque parti a présenté ses arguments. Le délibéré a été prononcé cet après-midi.
Alors, quelles sont les conséquences de cette décision de justice ?
Alors, n'étant pas électeur, Tidiane Thiam n'est à ce stade pas éligible à la présidentielle du 25 octobre. Il faut aussi préciser, Zéphirin, qu'à ce stade, il n'y a pas d'autre recours possible pour demander sa réinscription sur la liste électorale. Autre point d'interrogation ce soir, quid du statut civique de Tidiane Thiam qui a récemment renoncé à la nationalité française pour être éligible à la présidentielle d'octobre en ordonnant sa radiation de la liste électorale au motif qu'il n'est pas ivoirien. Cette décision de justice du tribunal crée un flou sur son état civique. Tidiane Thiam, actuellement en Europe, dénonce un déni de justice. Selon ses mots, il appelle à des pourparlers pour sortir de cette situation. Nous demandons instamment à toutes les parties de s'engager dans un dialogue constructif afin que le scrutin d'octobre soit conforme aux normes internationales et que personne ne soit exclu du processus électoral, dit-il dans un communiqué diffusé ce soir.
Binta Diagne en direct d'Abidjan. Dans un peu plus d'un mois, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest fêtera ses 50 ans, l'anniversaire de l'organisation régionale créée le 28 mai 1975 sera notamment marqué par une série d'événements tout au long de l'année dans l'ensemble des pays membres. C'est ce qui a été annoncé ce mardi à Accra, au Ghana, lors du lancement officiel des célébrations. Un événement auquel ont été officiellement conviés les membres de l'Alliance des États du Sahel. Une invitation à laquelle les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger n'ont pas souhaité répondre. Correspondance à Accra, Victor Cariou.
Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel n'ont pas pu se rendre à Accra à cause de délais trop courts et d'un agenda trop chargé. Voici pourquoi l'invitation du président ghanéen John Dramani Mahama est restée lettre morte selon une source proche de la présidence. Si cette absence n'a pas fait l'objet de remarques lors des différents discours, la question des futures relations entre la CEDEAO et l'AES était bien au menu de cette matinée. Pour assurer la paix et la sécurité, notamment face au terrorisme, nous devons nous réconcilier avec les États du Sahel, a notamment déclaré Omar Touré, président de la commission de la CEDEAO. John Dramani Mahama a, quant à lui, proposé que son pays serve, je cite, « de pont entre la communauté ouest-africaine et l'AES », le président ghanéen plaidant pour un dialogue compréhensif sans laisser place à l'isolationnisme et la récrimination. L'après-midi a quant à elle été dédiée à une réunion extraordinaire du Conseil des ministres de la CDAO. Celle-ci doit se tenir jusqu'à mercredi 23 avril, au menu des discussions, le retrait des États du Sahel de l'organisation sous-régionale. Victor Cariou, Accra, RFI.
Et je rappelle que le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont donc quitté l'organisation. Même si ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel restent membres de la zone France CFA, la situation suscite l'appréhension des commerçants, notamment en Côte d'Ivoire. Reportage de Benoît Almeras à Abidjan, au Forum des marchés d'Adjamé.
Le Forum, c'est l'Afrique de l'Ouest en miniature.
Je viens du Mali.
Je suis burkinabé, mais je suis né ici, en Côte d'Ivoire.
Ici, le commerce se fait avec toute la sous-région. Adama est burkinabé, il importe des vêtements en tissu bogolan qu'il revend à Abidjan. Pour lui, la sortie de son pays de la CDAO va poser problème.
Nous, on est un commerçant. On peut quitter ici, aller vendre au Burkina. On prend au Burkina pour venir vendre ici. Les deux pays-là, si ça ne tente pas. Mais vraiment, c'est pas bon. On veut que vraiment, si ils sont en tâne, on sera content.
Opinion partagée par la plupart des commerçants. Avec la sortie de l'AES, ils craignent de ne plus pouvoir circuler aussi librement entre Abidjan et Bamako ou Ouagadougou. Autre risque pour l'économiste ivoirien Alban Aouré, l'application de barrières douanières réciproques.
La sortie des pays de l'AES va entraîner des barrières tarifaires et ça pourrait affecter négativement les emplois si les entreprises n'arrive pas à avoir de nouveaux marchés dans d'autres pays hors AES, ou si les entreprises de l'AES n'arrivent pas à avoir d'autres marchés hors CDAO.
Reste que les pays de l'AES sont toujours membres de l'UMOA et sont aussi des clients de la Côte d'Ivoire. En 2023, le Mali et le Burkina ont représenté à eux deux 13,5% des exportations ivoiriennes. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
RFI à Abidjan, il est actuellement 18h37. En République démocratique du Congo, le PPRD, le parti de l'ancien président, sort du silence et répond aux accusations des autorités. Pour rappel, le gouvernement a décidé de la suspension des activités du parti sur l'ensemble du territoire, raison invoquée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. L'attitude ambiguë de l'ancien président, il lui reproche, je cite, son choix délibéré de rentrer au pays par la ville de Goma sous contrôle de l'ennemi qui assure curieusement sa sécurité. Patient Ligodi, il est également reproché à Joseph Kabila de n'avoir jamais condamné l'occupation d'une partie du territoire par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Accusation, patient, que le PPRD rejette.
Le PPRD affirme avoir adopté, je cite, « une posture de résistance non violente depuis quelques années ». Le parti explique qu'il est en cours de restructuration, objectif, participer au débat politique et à la conquête démocratique du pouvoir. Concernant Joseph Kabila, accusé par les autorités d'avoir transité par Goma, le PPRD répond « il est établi des notoriétés publiques que le président honoraire Joseph Kabila n'a pas séjourné à Goma la semaine dernière ». Fin de citation. Mais cette version est contestée. Le ministre de l'Intérieur et des responsables de l'AFC M23 assurent, eux, que Joseph Kabila était bien à Goma. D'autres responsables politiques pointent aussi un tweet publié il y a 4 jours par Kikayabina Karoubi, un proche collaborateur de l'ancien président. Il écrivait « Joseph Kabila est toute sa vie à la quête de la paix » et annonçait qu'il prononcerait un discours depuis Goma. Ce discours, pour l'instant, n'a pas été diffusé. Même si la présence de Joseph Kabila à Goma venait à être confirmée, le parti estime que cela ne permet pas de conclure à une quelconque complicité avec un groupe rebelle. Le PPRD demande au ministre de rapporter sa décision. Il parle d'abus de pouvoir.
Patient Ligodi. On a appris ce matin la mort de l'auteur et philosophe congolais Valentin Yves Moudimbe. Il est décédé la nuit dernière à l'âge de 83 ans en Californie du Nord, aux États-Unis, où il vivait. Originaire de la province du Haut-Katanga, Valentin Yves Moudimbe était considéré comme l'un des intellectuels et philosophes africains de premier plan. Le reste, c'est Alexandra Brangeon qui raconte.
Auteur de romans, de recueils de poésie, de mémoires, c'est surtout ses essais théoriques sur l'Afrique qui vont faire de Valentin Yves Moudimbe une grande figure du monde littéraire et linguistique. Né le 8 décembre 1941 à Likasi, dans la province du Haut-Katanga, il reçoit une éducation religieuse chez les moines bénédictins où il fait son noviciat. À 21 ans, il renonce à cette vie et poursuit ses études de philosophie à Louvain, en Belgique. Enseignant à l'université de Lubumbashi, il devient très actif dans les revues publiées alors au Congo. Fin des années 70, il quitte le Zaïre de Mobutu pour un long exil qui le conduit en Europe puis aux États-Unis, où il enseigne notamment à l'université de Stanford. Auteur d'une quarantaine d'essais, il déconstruit le regard de l'Occident sur l'Afrique, l'image du continent façonnée par le discours des explorateurs, anthropologues et missionnaires, et s'attelle à constituer une bibliothèque africaine. Un savoir africain sur l'Afrique. L'un de ses ouvrages phares, L'invention de l'Afrique, paru il y a plus de 30 ans en anglais, devenu un incontournable des études africaines dans les universités américaines, a été traduit en français l'année dernière.
Alors quel est l'héritage que laisse cette illustre figure des études africaines? Élément de réponse de Boniface Mangombusa, critique littéraire congolais, joint par Alexandra Branjon.
Ce que je retiens de lui, c'est d'abord la quête de la liberté toute sa vie, y compris dans sa vie de citoyen et sa vie d'intellectuel. Il était animé par cette quête de liberté. Et il ne faut pas oublier qu'il était d'abord ordonné prêtre. C'est un prêtre défroqué, donc qui a quitté les ordres, qui ensuite est devenu enseignant. Et quand Mobutu a voulu l'embrigader pour en faire de lui membre du comité central du MPR, qui était le parti unique du pays, il a décliné poliment et puis il est allé aux États-Unis. Il a fait la carrière mondiale, puisqu'il a publié un livre mondialement connu, L'invention de l'Afrique. Donc voilà, ce qu'on peut retenir de Modibé, c'était la quête de la liberté individuelle, mais en même temps, c'est la quête de liberté du continent. Et toute sa vie, il a montré qu'on ne peut pas penser, écrire, si on n'est pas libre.
D'où un des thèmes récurrents de ses œuvres, qui est de repenser l'Afrique.
Ben déjà, il part d'une idée que l'Afrique contemporaine, en tout cas intellectuelle, telle que vous et moi comprenons, est une construction de ce qu'il appelle la bibliothèque coloniale. C'est-à-dire tous les travaux, tous les livres écrits par des voyageurs, des savants, des militaires, des ethnologues qui ont séjourné en Afrique pendant la période coloniale, ont donné une certaine image de l'Afrique. C'est ce qu'il appelle l'invention de l'Afrique. Et donc, le travail du chercheur, de l'écrivain africain, va consister à déconstruire justement cette image d'Épinal. Donc, ça veut dire reconstruire notre bibliothèque par opposition à la bibliothèque coloniale.
Est-ce qu'il était précurseur dans son travail ?
Oui, mais ce discours-là existait déjà en Amérique latine. Du côté de l'Afrique, ça peut paraître nouveau, mais c'est un discours que l'entendait déjà du côté des intellectuels de l'Amérique latine. Par exemple, quand l'Occident parle de la découverte de l'Amérique, les intellectuels latino-américains opposent la conquête de l'Amérique. C'est pas la même chose. Et Modibé, et en fin de compte, il applique ça aussi un peu en Afrique, quelque part. Que l'Afrique que nous connaissons à travers les images, les photos, les discours des voyageurs, c'est une invention, c'est une construction de sauvage. Et donc, lui, par opposition, il oppose justement une autre bibliothèque, d'où l'invention de l'Afrique. C'est l'Afrique que nous croyons connaître, c'est une Afrique inventée à partir de la bibliothèque coloniale. C'est ça ce qu'il appelait la bibliothèque coloniale. Donc voilà, de ce point de vue, oui, par rapport à l'Afrique, il était en avance, puisqu'il a inviter tous les chercheurs à déconstruire l'image de l'Afrique telle qu'elle existe.
Boniface Mangombusa, critique littéraire congolais, interrogé par Alexandra Branjon pour ce dossier consacré au décès de Valentin Yves Modibé, philosophe africain de premier plan. RFI à Paris, où il est actuellement 20h43. Le concert Solidarité Congo a bien lieu ce soir à l'Accor Arena à Paris. Cet événement caritatif qui réunit certaines des plus grosses figures du rap français et vise à lever des fonds en soutien aux enfants victimes du conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo devait initialement avoir lieu le 7 avril. Il a dû être repoussé car cette date qui marque chaque année le début des commémorations du génocide des Tutsis faisait polémique. Bonsoir Lisa Fabian, vous êtes sur place.
Bonsoir.
Alors quelle est l'ambiance à l'Accor Arena à Paris ?
Eh bien, cela fait déjà un peu plus d'une heure et demie que chansons et prises de parole se succèdent sur cette scène de l'Accor Arena. 11 000 spectateurs, une trentaine d'artistes sont attendus. Plusieurs organisations sont aussi présentes ce soir. Certains de leurs membres étaient mobilisés sur le parvis de l'Accor Arena pour distribuer des drapeaux de la RDC que les spectateurs agitent maintenant à bout de bras. Paul Wemo Ekossa, le président de l'association congolaise d'aide aux victimes des massacres dans l'Est de la RDC, participait notamment à cette action de sensibilisation.
Nous devons être là pour sensibiliser les autres, sensibiliser nos compatriotes, leur dire ce n'est pas seulement les concerts. Les concerts, on va voir Maître Gims, on va voir tous nos stars qu'on aime beaucoup, mais l'objectif, c'est de sensibiliser le peuple à comprendre que nous devons tous nous lever pour dénoncer ce qui se passe, parce que vraiment le problème du Congo dure.
Beaucoup de jeunes dans le public ce soir pour la musique, bien sûr, avec des artistes comme les stars Youssoupha ou Fally Ipupa en tête d'affiche. Mais l'action caritative compte aussi aux yeux de Samuel, 22 ans, jeune français d'origine congolaise.
Je suis originaire d'un pays qui subit l'oppression de ses voisins depuis un peu plus de 20 ans. Mes parents m'ont toujours fait grandir en me disant tout ce qui se passe au pays. Chaque année, je vais en RDC depuis que je suis né. C'est aussi important de pouvoir prouver qu'on est congolais, pas que pour l'ambiance, la musique, danser, mais aussi pour les moments sérieux et montrer qu'on est de cœur avec nos frères et sœurs qui se trouvent à l'est de la RDC.
Les organisateurs de ce concert Solidarité Congo ont annoncé un show à guichet fermé dont les recettes seront reversées à l'association Give Back Charity du chanteur Dadju. C'est cette organisation qui doit assurer leur redistribution sur le terrain.
Lisa Fabian, direct de l'Accor Arena à Paris.
Allez, il est 20h45 ici à Paris, 2h de moins en temps universel, et à suivre dans la seconde partie d'Afrique Soir les sorties musicales afro-urbaines avec une sélection signée Hervé Mandina alias DJ Facemaker, un reportage de Lilia Blaise à El Amra Sfax sur le démantèlement des camps de candidats à l'exil en Tunisie. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité internationale de ce mardi soir. Et les funérailles de François qui auront lieu samedi matin. Alors c'est la principale information de la journée au lendemain de la mort du pape à l'âge de 88 ans. Funérailles qui réuniront de nombreux dirigeants étrangers. Ont déjà annoncé leur présence Donald Trump, le président américain, ses homologues français Emmanuel Macron, ukrainien Volodymyr Zelensky, le premier ministre britannique Keir Starmer. On peut également citer le roi et la reine d'Espagne. Pas Vladimir Poutine en revanche, ce président russe qui est visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. À partir de demain matin, mercredi, les fidèles vont pouvoir rendre un dernier hommage au pape François, puisque sa dépouille sera exposée jusqu'à vendredi soir dans la basilique Saint-Pierre de Rome. L'activité économique mondiale qui est menacée cette année, menacée par la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui tire la sonnette d'alarme dans un rapport. Le FMI affirme s'attendre cette année à une croissance mondiale à 2,8%, baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à sa précédente estimation.
Et en cette journée de la Terre, on fait un focus sur des solutions africaines face aux défis environnementaux. Parmi les lauréats du prix EarthNA, remis aujourd'hui par la Fondation du Qatar pour encourager les projets environnementaux qui s'appuient sur les savoirs traditionnels, deux Africains, le Kenyan Elisha Caleb, a été récompensé pour l'initiative Seeds of Change de Blooming World International au Kenya, qui touche plus de 2 millions de bénéficiaires en relançant la culture de légumes autochtones et en formant les jeunes et les femmes aux bonnes pratiques agricoles. Le Camerounais Farmer Tanto a lui été primé pour son initiative de conservation de l'eau avec des pratiques comme la récupération des eaux de pluie. Sujet signé Juliette Britrachevski.
C'est un prix qui réjouit Farmer Tanto et sa fondation du même nom. Ce militant camerounais a jusqu'ici permis à 250 personnes d'avoir accès à l'eau grâce à des pratiques de gestion durable. Il s'agit de récupérer des eaux de pluie ou encore protéger des zones de captage, des dispositifs de prélèvement d'eau potable à partir de sources naturelles sorties de terre ou de cours d'eau, par exemple.
Mon initiative vise à rendre les communautés locales capables de préserver les zones de captage d'eau en y plantant des arbres et des graminées qui restaurent ces captages d'eau. Une fois cette opération terminée, nous exploitons les sources, construisons des réservoirs d'eau, puis prenons l'eau par gravité et construisons des robinets sur pied afin que les communautés puissent avoir accès à l'eau potable.
Désormais récompensé par le prix EarthNA, Farmer Tanto espère attirer l'attention sur l'un des enjeux les plus importants de ce 21e siècle.
Environ 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable et à l'assainissement. Cela devrait être un droit humain universel pour que personne ne soit laissé pour compte. Nous devons donner aux communautés les moyens de préserver elles-mêmes ces ressources en eau. Si on ne le fait pas, une guerre de l'eau s'abattra sur cette planète.
Avec $1 million américains, le prix EarthNA permettra aux 4 lauréats, comprenant Farmer Tanto, de poursuivre le développement de leurs initiatives.
Un sujet signé Juliette Pietraszewski. en Tunisie après le démantèlement de camps de migrants à Sfax dans l'est du pays début avril. De nombreux subsahariens ont fui dans les champs d'oliviers avoisinants où ils se sont réinstallés, passant de campement en campement. Beaucoup disent avoir tout perdu mais ne pas vouloir partir tant qu'ils n'ont pas tenté une traversée vers l'Europe. Les autorités misent en tout cas sur les démantèlements pour les dissuader de rester et pour éviter les problèmes avec la population locale. Reportage Lilia Blaise à El Amra, Sfax.
Dans le campement du kilomètre 22 à El Amra, plusieurs centaines de migrants sont installés dans des tentes de fortune. Quelques-unes sont un peu plus solides avec des structures en bois ou des bâches. Mais Nadine, 32 ans, camerounaise, doit dormir à la Belle Étoile à même le sol. Début avril, elle a dû fuir le campement où elle vivait. Il a été démantelé par les autorités.
Parce que là où j'étais d'abord, on a cassé là-bas. Je n'ai pas d'abri. Je dors sur les étounes. C'est pas facile pour nous. Bon, j'ai vu, il y a aussi des Noirs comme moi et je suis venue. Je sais qu'ils ne peuvent pas me jeter. Je me suis déjà déplacée comme ça plus de 4 fois. Plus de 4 fois. On vient, on casse, on nous renvoie, on nous jette, on nous tabasse. C'est pas facile. Dernièrement, même, je suis tombée, j'ai vraiment eu mal.
Pendant que certains jouent au foot, d'autres construisent leurs tentes. Quelques-uns pris dans un espace qui sert de mosquée. Un petit terrain à ciel ouvert dont les bases ont été délimitées, avec des bouteilles plastiques remplies de sable. Doucouré Souleymane a 23 ans, il vient de la Côte d'Ivoire. Il prépare un thé avec ses amis sur le son de Maître Gims. Il a fui le campement du kilomètre 24, détruit par les autorités.
Un matin, on était là, ils sont venus, ils ont donné des avertissements. Ils ont dit que non, nous devons quitter les lieux, mais on ne savait pas où aller. Donc on a demandé, ils disent que non, ils nous donnent 72 heures. Qu'après les 72 heures, bon, si on ne débarque pas de lui, ils vont venir. Après ils sont venus, ils ont commencé à gâter les trucs, nous chasser, brûler nos trucs. On dormait au dehors pendant 3 jours. Après on est venu se réfugier ici. Bon, comme ça ne va pas, la famille a essayé de nous envoyer quelque chose. On a pu construire une maison pour dormir là-dedans.
Souleymane dort avec 15 autres personnes sous une structure faite de briques et de brocs. Mais toutes ces épreuves ne le font pas renoncer pour autant.
Moi, je suis venu pour l'Italie. Et personne n'a payé mon transport pour arriver ici. Et c'est comment ma famille a souffri pour que j'arrive ici aujourd'hui. Donc, c'est pas ça qui va faire que non, moi, je vais me retourner là.
Plus loin dans les oliviers, d'autres campements sont visibles à l'œil nu. Selon les estimations du gouvernement tunisien, il serait près de 20 000 migrants en situation irrégulière à vivre de la sorte. Lilia Blaise, El Amra, Sfax, RFI.
Afroclub, le hit des platines. DJ Facemaker.
Et comme promis, l'ambianceur d'Afrique Soir nous rejoint pour honorer son rendez-vous du mardi sur RFI. Bonsoir Hervé Mondina, alias DJ Facemaker.
Et bonsoir aux tentants de l'info africaine, Zéphirin Kouadio.
Toujours aussi taquin, mon cher Hervé. Allez, vous nous proposez un western à l'africaine pour ouvrir votre sélection avec le collectif de producteurs et compositeurs Lagos in Paris.
Et c'est même le nouveau western, pour emprunter l'expression à MC Solar. Lagos in Paris innove avec son afro-électro contemporain. Les membres du groupe très secret sont tous basés à Paris, mais originaires d'Afrique de l'Ouest. Ils pourraient presque se cacher derrière un casque comme les Daft Punk ou encore le tchadien Afrotronix. En tout cas, Lagos in Paris, c'est un projet ambitieux défendu par le titre Afro-G-Western sur lequel le musicien ghanéen Stevo Atambiré et l'artiste Tsie apportent leur touche. Je vous invite particulièrement à faire un tour sur RFI.fr et à regarder le clip de Afro du western qu'on écoute.
Allez, on quitte le Far West de Lagos in Paris pour rejoindre la ville romantique de Luanda en Angola avec le duo Sef Tanzi et Perola.
En effet, deux artistes emblématiques de la scène angolaise, Carlos Fernando Tanzi, alias Sef Tanzi, l'architecte de la trappe Zouk, allait savoir de quoi il s'agit, de retour en duo avec Perola, la voix féminine de la Kizomba en Angola. Tous les deux se retrouvent sur le titre Lei 14, oui ça se dit comme ça en portugais, qui est le premier titre inédit de Sef Tanzi après le succès de l'album Bairro Star, paru l'an dernier. Vous l'avez dit, Lei 14 est une chanson romantique, harmonieuse, qui a très vite trouvé son audience, et depuis sa sortie, elle ne cesse de progresser. 3 minutes et 15 secondes de douceur auditive.
É trauma de passado que quase me matou de ataque.
Eu coitado do filho alheio, tava cheio de boas intenções.
E eu com as mágoas das más experiências, tava nem das tuas intenções.
E eu te disse que a mãe adora ser a minha única sogra. A forma como eu vou te mimar vai te dizer, filha, casar.
É convincente o teu charme, desbloqueia o meu coração. Até esqueci.
Et de la Kizomba à la Rumba, il n'y a qu'une seule frontière, Hervé, et celle de l'Angola et de la RDC que nous traversons pour rejoindre le rappeur congolais Heidi Pizzle et la légende Lokua Kanza.
Heidi Pizzle, qui est reconnu pour être le créateur de la Rumba Drill, cette fusion de musique congolaise et de rap britannique. Il s'est fait remarquer en 2020 avec sa chanson phare Billie Jean et il s'est forgé depuis une identité artistique distincte. La légende Lokua Kanza a répondu à l'appel de Heidi Pizzle pour composer une nouvelle version de sa chanson Yika, qui est donc le fruit d'une collaboration intergénérationnelle et surtout une combinaison audacieuse des univers des deux artistes.
My brother, I'm not happy. Many, many days I don't see my babies. Cause all of my body is a passy, yeah. Mi kumbe pele nasima. Ata oleli, nanya kosunga yo. La vida no mete en comba. Ifo bunda, vamos kile indima yo. Yango na tika nyo.
Et après ce duo d'Afrique centrale, Hervé, on met le cap sur Saint-Louis au Sénégal pour conclure cette sélection certifiée Afro-Club avec le chanteur Cheikh Ibra Fame.
Oui, l'artiste originaire de Mbour, au parcours musical riche et engagé, c'est seulement en 2022 qu'il s'est lancé dans une carrière solo après avoir longtemps tourné au sein du légendaire Orchestra Baobab. Influencé par la soul, le reggae et les musiques traditionnelles sénégalaises, Cheikh Ibra Fame a dévoilé le titre Ram Ram, qui signifie connaissance en Wolof, sous le label Kumbancha. Il s'agit du premier single de son prochain album Aduna, dont la sortie est prévue pour le mois d'octobre prochain. Cheikh Ibra Fame a puisé dans ses souvenirs d'enfance pour écrire ce morceau dont le clip a été tourné dans la belle ville de Saint-Louis, au nord du Sénégal.
Nyakodara ham kham mom koko amul amodara samadom changel.
Voilà, c'est avec Cheikh Ibra Fame que l'Afro Club referme ses portes aujourd'hui, mon cher Hervé Mandina. Et comme toujours, votre sélection n'a pas été décevante, mon cher Hervé. Je rappelle que cette émission est disponible à la demande sur l'application RFI Pure Radio.
Et aussi sur notre site internet RFI.fr dans l'onglet podcast. Je vous retrouve ce jeudi, Zéphirin, avec au programme le Tchad, le Togo, le Cameroun et la très attendue séquence rétro.
Singa tolo rek ngay doxé ni nga xamé rek ngay waxé ku wax feñ ku jëf feñ gañu jangilé
RFI soir.
Bien, merci Zéphirin Quadio pour cette première édition d'Afrique Soir.
Merci à vous Romain.
On vous retrouve dans 30 minutes. D'ici là, eh bien, ce sera Alban Le Prince qui est déjà en studio à nos côtés pour le journal de 19h temps universel. Et puis juste après, eh bien, c'est Mardi Politique ce soir. L'invité sera Laurent Jacobelli, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, député RN de la Moselle. Il répondra aux questions de Rosine Fèvre et Frédéric Rivière. Juste après, donc la seconde édition d'Afrique Soir de ce mardi. Et puis le grand reportage Alors ça, ce sera dans 40 minutes, ce soir, qui nous emmènera en Birmanie, près d'un mois après le séisme. Un peuple entre dévastation et résilience. Ce sera un grand reportage signé de l'envoyé spécial de Radio France Internationale, Esther Lebleu. Donc la session de l'info, elle se poursuit encore pendant une heure sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et ne bougez surtout pas, on revient dans une minute.
Préparez-vous à découvrir le futur du stand-up africain. Avec le podcast La Relève du Rire, plongez au cœur de Mon Premier Montreux, le grand casting de l'humour lancé dans 10 pays d'Afrique francophone. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode avec les meilleurs sketchs et l'énergie débordante des humoristes de demain. Alors, d'où viendra la prochaine pépite du stand-up africain ? La Relève du Rire, c'est votre dose hebdomadaire de bonne humeur. Disponible sur RFI.fr, l'application RFI Pure Radio et toutes les plateformes d'écoute.
Cool, tropical.
Couleur tropicale, Claudie Ciard.
Ce mardi 22 avril, Couleur tropicale est encore au cœur du FEMU A17 qui aura refermé ses portes. Couleur tropicale donnera la parole à la jeunesse, à la génération consciente de Daloa et aux acteurs de la musique d'une ville hautement culturelle. Couleur tropicale à Daloa, la deuxième étape de la tournée africaine des 30 ans de...
Couleur tropicale avec Claudie Ciard.
Du lundi au vendredi, à partir de 20h10 TU.
RFI.